Alors bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Juste un instant. Voilà. Ok. Alors, désolé pour le petit contretemps et retard. Le logiciel faisait défaut ce matin. J'ai travaillé là-dessus depuis un moment et je ne sais pas comment on est même branché actuellement. Donc, on s'en excuse, mais bien le bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui nous rejoignent via la page Facebook de l'Église ou via la page Internet de l'Église ou les autres moteurs de recherche, que Dieu vous bénisse à tous et chacun. Alors, on est à notre toute première bénédiction matinale pour l'année 2022. On est content d'être de retour après deux semaines malgré tout chargées. Alors, vous savez qu'on a pris une semaine d'abord de repos, puis après ça, bien, la COVID s'est manifestée chez nous. Donc, Daphné a été testée positive avec le test rapide. Donc, on a poursuivi le confinement pour 10 jours. Elle est de retour au travail aujourd'hui même, première journée de travail de l'année 2022. Donc, bien content que vous soyez avec nous ce matin. On va juste saluer quelques personnes. Assurément, je ne pourrai pas tous vous voir, mais si vous mettez votre nom ou si vous mettez un petit commentaire, je pourrai alors vous saluer. Daniel, bonjour. Marie-Marthe, bonjour. Suze, bonjour. Rachel, bonjour. Et bonjour aux sœurs qui sont avec toi. Donc, la sœur Auxilia, la sœur Chantal et la sœur Mona. Bonjour à la sœur Sylvia. Bonjour au pasteur David. Bonjour à mon père, à ma mère. Bonjour à la sœur Bernadette. Bonjour à Lucie. Bonjour à Maggie. Bonjour à Annie. Alors, bien heureux que vous soyez tous là pour débuter cette nouvelle année. Dans l'étude de la parole de Dieu. Alors à vous tous, on vous souhaite une très bonne année. Vous ne m'avez pas vu beaucoup en live dernièrement. En fait, depuis avant Noël, c'était mon dernier live au niveau de l'église. J'en ai fait un petit par la suite sur mes pages personnelles. Mais j'ai fait aussi donc l'assemblée du 24 au soir et puis un petit temps aussi le 31 au soir. Donc, on est très content de vous retrouver tous et chacun pour cette autre période d'étude, de méditation et d'encouragement matinal. Alors, ce matin, je vais vous inviter plutôt à ouvrir dans Luc au chapitre 10. On va approfondir cette semaine la prédication qu'a initiée le pasteur André hier. Et je le remercie aussi fortement à travers les deux dernières semaines. C'est lui qui m'a remplacé au niveau de la prédication puisque j'étais en confinement à la maison. Donc, il a pris le relais pour ses assemblées des dimanches. Donc, Luc 10, 38 à 42 est la thématique pour cette année. En fait, pour débuter l'année, c'est pas la thématique de l'année, mais c'est la thématique de cette semaine telle que le pasteur André l'a initiée pour nous hier durant la prédication. La question pour nous, Dieu a-t-il toute mon attention? Dieu a-t-il toute mon attention? Et ça va être ce passage donc dans Luc 10 qu'on va développer tout au long de la semaine. Alors prions et après ça on fait la lecture de ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cette toute première bénédiction matinale de l'année 2022. Encore une fois, bien des choses se sont passées dans les derniers jours, les dernières semaines. Et on se retrouve, chacun d'entre nous, encore dispersés un peu partout. On te demande, Seigneur, d'étendre ta main, de nous toucher, d'ouvrir notre entendement et que cet enseignement d'aujourd'hui, mais aussi tous ceux qui suivront tout au long de cette année, soit l'occasion pour nous tous, Seigneur, d'être enrichis, fortifiés et puis édifiés par toi. Alors bénis-nous, garde-nous dans ta présence, garde-nous dans la recherche de ta parole, garde-nous, Seigneur, dans l'inspiration que celle-ci suscite dans nos vies. Et en toute chose, que toute la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux et merveilleux nom de Jésus. Amen. Alors, je lis pour vous Luc 10, le verset 38 à 42, qui nous dit « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Et cette semaine, on étudie essentiellement les deux derniers versets, donc les versets 41 et 42, que je relis pour vous. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Et la phrase qu'on étudie aujourd'hui, le verset 41, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. » Et demain, ce sera « Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. » Alors, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. » Et assurément, si on revient à la thématique de cette semaine, « Dieu a-t-il toute mon attention ?» Vous en conviendrez tous avec moi que lorsque nous sommes inquiétés par une chose, lorsqu'une chose nous préoccupe, assurément, les autres choses autour deviennent mineures. Lorsqu'il y a vraiment un sujet qui nous préoccupe, un sujet qui vient nous inquiéter, voire, dans certains cas, qui nous terrorise, assurément, tout ce qui peut se passer autour devient moins important, perd de leur attrait, perdent l'attention qu'on pourrait leur donner. Et lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle de donner notre attention à Dieu, assurément, les préoccupations qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours viennent régulièrement en rivalité avec notre Seigneur. Et c'est ce qu'on va aborder ce matin. Mais on va se rendre compte que dans cette simple phrase « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses », on va se rendre compte qu'il y a, oui, une façon de lire ce texte-là sur la superficie. Déjà en français, dans cette première lecture, il y a déjà beaucoup à en tirer. Mais lorsqu'on va un peu plus loin, lorsqu'on pousse un peu plus loin les termes en grec, parce qu'on est dans le Nouveau Testament, bien entendu, donc lorsqu'on étudie un peu les termes en grec, on se rend compte qu'il y a des choses un peu insidieuses qui sont cachées dans ces tracas qui peuvent à l'occasion survenir. Alors pour ceux qui prennent des notes, on va bien sûr encore cette année aller beaucoup avec les mots grecs ou hébreux, et ce matin on ne fait pas exception à la chose. Donc le terme Marthe, le nom Marthe, on sait qu'il y a, une sœur qui est là ce matin qui s'appelle Marie-Marthe, et donc c'est les deux noms qu'on voit cette semaine. Et malheureusement, et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment l'étymologie même grecque du terme, ces deux noms-là ne sont pas nécessairement des noms des plus gais ou des plus heureux ou des plus doux. Marthe veut dire rebelle. Lorsqu'on va avec l'étymologie grecque, Marthe en grec, c'est Martha. Donc M-A-R-T-H-A. Je sais qu'il y a la sœur Martha aussi qui nous regarde parfois en différé. Donc, Marthe veut dire à la base rebelle ou la personne qui est en rébellion. L'autre terme important pour aujourd'hui, s'inquiéter. Donc, c'est le terme merimnao, Mirim Now. Je les pèle pour vous. M-E-R-I-M-N-A-O. Je répète, M-E-R-I-M-N-A-O, Mirim Now, qu'on retrouve 19 fois dans le Nouveau Testament. S'inquiéter pour, le terme pour, c'est le terme péri, P-E-R-I, pour péri, P-E-R-I. Et enfin, beaucoup de choses, l'expression beaucoup de choses, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, c'est un seul mot en grec, c'est le terme polis. P-O-L-Y-S, je répète, beaucoup de choses. Polis en grec, P-O-L-Y-S. Donc, à la base, si on revient au terme merim nao, donc tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. La première chose qui nous vient à l'esprit lorsqu'on parle de s'inquiéter ou du terme merim nao, c'est des synonymes comme anxieux, comme tracassé. Alors, effectivement, le tracas, l'anxiété viennent voler l'attention qu'on devrait donner à Dieu. Lorsqu'il y a des sujets qui sont des tracasseries pour nous, ça vient occuper nos pensées, ça vient occuper notre énergie, ça vient occuper notre temps, ça vient occuper l'attention qu'on devrait donner à Dieu. Et lorsqu'on associe le terme « merinao » avec « polis », qui veut dire beaucoup de choses. Polis va dire beaucoup, plusieurs, multiples, large et étendu. Polis, beaucoup, plusieurs, multiples, large et étendu. Ça veut donc dire que Marie, lorsqu'elle se présente devant Jésus et que Jésus lui dit, hey, regarde Marie, aujourd'hui là tu t'inquiètes ou tu te tracasses pour beaucoup de choses, il est en train de lui dire, les sujets de tracasserie dans ta tête sont nombreux. Fait qu'elle n'est pas simplement en train de se tracasser à savoir est-ce que je fais, est-ce que j'ai bien rangé la maison, est-ce que j'ai bien préparé la nourriture, est-ce que j'ai bien reçu les invités, est-ce que j'ai bien préparé les choses qui étaient à préparer, est-ce que tout est placé au bon endroit. Marthe plutôt avait des tracas qui étaient nombreux et dans des domaines qui étaient vastes et étendue. Ça veut dire qu'elle n'était pas simplement en train de s'inquiéter à savoir est-ce que ma sauce à spaghetti, elle est bien préparée. C'était non seulement la sauce à spaghetti, le jus de fruits qui doit l'accompagner, le pain qui doit l'accompagner, c'était aussi les pâtes qui n'étaient peut-être pas encore cuites, c'était par la suite, mais est-ce que la maison a les fleurs qui doivent, et qu'est-ce que vont penser les gens lorsqu'ils vont rentrer, quelles vont être leurs pensées lorsqu'ils vont s'asseoir dans le salon, quelles vont être leurs conclusions à la fin du repas? Lorsque Jésus est en train de dire à Marthe qu'elle est en train de s'inquiéter, Merim now, il est en train de dire, tu as beaucoup de tracasseries et ces tracasseries sont vastes. Ça veut dire que ce n'est pas juste un petit tracas, ce n'est pas un tracas qui est ciblé, mais c'est une multitude de choses ou une diversité de choses qui rendaient Marthe inquiète et tracassé. La problématique avec le tracas et la problématique avec l'inquiétude, c'est que son terme le dit, l'inquiétude vient nous priver de notre quiétude ou de notre paix. Et assurément, le Seigneur nous dit, voici, je vous donne la paix et je ne vous la donne pas comme le monde la donne, mais je vous la donne en abondance. Le Seigneur nous dit, je vous donne une paix qui dépasse l'entendement. Lorsque le tracas, lorsque les tracasseries viennent, la première chose que ça nous prive, c'est donc de notre paix et de notre quiétude. Grâce, cadeau qui nous avait été préalablement fait par le Seigneur. Foncièrement, ça veut dire que lorsque je porte mon attention sur les tracasseries et que j'en perds ma paix, je donne à ces tracasseries un poids plus important que le cadeau de paix que Dieu m'avait donné. Et bien entendu, vous me direz, mais c'est difficile de rester dans la quiétude, dans la paix, dans le calme, dans la tranquillité, lorsque les choses commencent à s'amonceler contre nous, lorsque les situations contraires viennent par arriver, c'est difficile de rester calme. Effectivement, ça prend un exercice. effectivement, ça prend un effort de nous. Mais c'est ce même effort que David va dire à son âme, notamment dans un psaume, où il va dire « Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. » Il est en train de dire « Mon âme, retourne à ta paix, retourne à ta quiétude, abandonne la tracasserie, abandonne l'inquiétude, parce que tu sais déjà, parce que tu as déjà connu combien Dieu t'avait fait du bien. » Alors c'est un exercice, il ne faut pas croire que ça arrive tout bonnement, tout simplement et tout naturellement. Retourner à la paix, retourner à la quiétude est souvent un exercice que nous devons faire, un effort que nous devons fournir pour relativiser les choses et dire « Ok, il y a ce tracas, mais entre ce tracas et la présence de Dieu, entre cette problématique et la puissance de Dieu, qu'est-ce qui est plus lourd dans ma balance ?» Lorsque je maintiens mon cœur dans la tracasserie, lorsque je maintiens mon cœur dans l'inquiétude, je donne à ces sujets d'inquiétude et à ces sujets de tracas un poids plus lourd que la présence de Dieu, que la puissance de Dieu. Et par conséquent, Dieu n'a pas toute mon attention. Et vous comprendrez que le diable connaît tout à fait comment on réagit. Il sait parfaitement que lorsque les tracas viennent dans nos pensées, on a tendance à délaisser le Seigneur. Certaines personnes vont délaisser la prière, délaisser la lecture de la parole de Dieu, vont mettre tout un tas d'efforts et d'activités pour résoudre une situation. En faisant ainsi, ils laissent de côté le temps qui était important avec le Seigneur. J'ai appris il y a déjà plusieurs années, lorsque j'aidais mon beau-père, il avait été malade une première fois, et là on apprenait qu'il avait une récidive au niveau de la maladie. Et un des réflexes que j'ai eu à ce moment-là, c'était que j'allais prendre plus de temps dans la présence de Dieu. Je savais que m'occuper ou servir mon beau-père dans l'office qui était le mien allait exiger de ma part plus de travail, allait exiger de ma part plus d'efforts, plus de temps, plus d'attention. Alors j'aurais pu dire, bon, mais je vais couper dans des choses, puis le Seigneur comprendra que j'ai un peu moins de temps pour la lecture de la parole de Dieu, que j'ai un peu moins de temps pour la prière, et Dieu compensera par sa grâce. Et c'est souvent la réaction ou l'option qu'on essaie de faire prévaloir. Au lieu de cela, je me suis dit, je sais que dans les prochaines semaines, ça va être exigeant, demandant, voire éreintant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter mon temps avec le Seigneur. J'ai dit, je vais couper un peu sur le sommeil, je vais couper un peu sur certaines activités, je vais couper un peu sur certains loisirs pour donner plus de temps à la lecture de la parole de Dieu et plus de temps à la prière, parce que je savais que c'est ce qui serait mon soutien et c'est ce qui assurerait ma pérennité dans ces moments difficiles. J'ai appris cela à ce moment-là, puis là ça fait déjà une douzaine d'années que j'opère ainsi. Donc lorsque je sais que je vais rentrer dans une saison qui va être plus demandante, j'augmente mon temps de prière, j'augmente mon temps d'intercession, j'augmente mon temps de lecture, voire même personnellement, j'augmente mon temps de jeûne et de prière, parce que je sais que foncièrement, ce que j'ai besoin n'est pas plus de repos, ce que j'ai besoin n'est pas plus de sommeil, ce que j'ai besoin n'est pas plus de détente, mais ce que j'ai besoin, c'est d'avoir plus de la présence palpable, tangible de Dieu et de passer davantage de temps avec celui qui m'accorde la paix et qui me donne cette paix qui dépasse l'entendement. Alors, ce qu'on comprend ce matin, premièrement, lorsqu'on parle de Mérimno, c'est que ces tracasseries vont venir bousiller la quiétude et la paix. Et ça, c'est une chose, un exercice régulier de la part du diable pour nous distancer de Dieu. Il va te mettre un tas d'inquiétudes au niveau professionnel, au niveau santé, au niveau familial, au niveau des amitiés, au niveau des enfants, au niveau de la relation de couple. Il va mettre un tas de circonstances un tas de situations qui inquiètent, tout simplement pour s'assurer de te distancer de Dieu. Au contraire, ça devrait être l'occasion pour toi et pour moi de faire l'effort de m'approcher davantage de Dieu. Ne tombons pas dans ce piège dans lequel on est si souvent tombé par le passé. Quand je sens la pression, quand je sens les choses s'accumuler autour de moi, au lieu de délester mon temps de prière et mon temps d'intercession et mon temps de lecture et mon temps avec le Seigneur, je l'augmente sachant que j'en ai encore plus besoin aujourd'hui. Lorsqu'on parle du terme merimno, comme deuxième c'est merimnao plutôt, comme deuxième synonyme, on parle aussi de veiller ou de prendre soin de quelque chose. Alors, premièrement, c'était les tracasseries. Merimnao va aussi vouloir dire prendre soin d'une chose ou s'occuper d'une chose. Veiller sur une chose. Les sujets pour lesquels on veille, encore une fois, c'est police. Donc, ils sont nombreux et ils sont vastes. Le diable va mettre devant toi tout un tas de choses pour lesquelles il te dit « Mais tu dois t'occuper de ça. Tu dois t'occuper de ta carrière. Tu dois t'occuper de ta famille. Tu dois t'occuper des gens autour de toi. Tu dois t'occuper de la maison. Tu dois t'occuper de la nourriture. Tu dois t'occuper de faire les courses. Tu dois t'occuper de ton avenir. Tu dois t'occuper de ta retraite qui va venir dans X nombre d'années. Tu dois préparer ces choses. » Et ce faisant, les sujets deviennent très vastes. Les sujets sont nombreux. Je prends une petite gorgée. Et lorsque les sujets d'attention et les sujets qui requièrent que je veille sur eux ou les domaines qui requièrent que je veille sur eux s'accumulent, ben à ce moment-là, non seulement ça capte mon attention, ça prend toute mon attention que je devrais mettre à la prière. Hier, le pasteur André nous disait combien de fois on prie pour des gens, puis en plein cours de la prière, on pense « Ah, ben il y a la dinde qu'il faut que je mette à cuire, parce que ce soir, quand les enfants vont arriver, ça ne sera pas encore prêt. » Ou « Ah oui, mais je suis en train de prier, d'intercéder pour quelqu'un, puis là, tout d'un coup, c'est comme « Ah oui, mais j'ai oublié, il me manque du lait, on en a besoin pour les petits demain. » Donc, notre attention va être bousillée, va être écorchée, va être amputée de ce qu'elle aurait dû être envers le Seigneur. Mais de surcroît à cela, des sujets qui requièrent notre attention vont aussi prendre notre temps. Parce qu'on ne va pas simplement y penser, mais on va y consacrer des efforts, on va y consacrer de l'attention, on va y consacrer un travail, et le travail, par conséquent, est aussi une question de temps. Alors, lorsqu'on dit « Dieu a-t-il toute mon attention ?» Mais on se demande non seulement est-ce que je suis en paix ou je suis inquiet, mais de surcroît à cela, est-ce que les choses sur lesquelles je veille, les choses dans lesquelles je m'implique, quand je fais la priorité des choses, Dieu est-il en première instance? Dieu est-il la première priorité de mon existence? Je vous ai déjà raconté, mais pour ceux qui se joignent à nous, ça va peut-être être une première occasion, ce cours de la gestion du temps auquel j'ai assisté il y a plusieurs années, et j'y suis allé simplement parce que c'était un ami qui l'organisait. C'est pas lui qui faisait la conférence, mais il avait invité quelqu'un. Et à cette époque-là, c'était la grosse mode un peu partout, dans l'église comme à l'extérieur de l'église, sur les formations de gestion du temps. Et ce qui m'embêtait, c'est que dans l'église, ce qui était véhiculé, et je l'ai encore entendu cette semaine, c'était « oui, mets Dieu en premier, après ça, mets toi, mets ta femme, mets tes enfants, puis mets la famille, puis mets l'église et mets les gens de l'extérieur par la suite. » Donc, il y avait toujours cette hiérarchisation très structurée qui, à prime abord, semble tout à fait adéquate, mais qui nous fixe et qui nous lie avec une certaine structure qui nous empêche de faire face à n'importe quel changement ou à n'importe quel ordre de priorité que Dieu voudrait changer. Alors, j'étais fatigué d'entendre tout le temps Mets Dieu en premier, mets-toi en deuxième, parce que si tu prends pas soin de toi, tu pourras pas prendre soin des autres. Puis mets ton épouse en deuxième, parce que c'est une partie de toi. Puis mets les enfants en quatrième, puisque c'est ton premier ministère. Et enfin, ajoute après tes enfants ce que tu fais pour le Seigneur. Le conférencier ce jour-là a dit, regardez, la priorité reste Dieu. Le numéro un reste Dieu. Et ça, on s'entend tous là-dessus. Dieu doit être notre première priorité. Et ce conférencier disait, après cela, une fois que tu as mis Dieu comme première priorité, ben laisse-le lui te dicter quelles sont les autres priorités. Et un jour, ça pourrait être effectivement toi la deuxième priorité. Le lendemain, ça pourrait être ton épouse. Le surlendemain, ça pourrait être tes enfants qui sont la deuxième priorité. Et toi, tu ne passes qu'en dixième. Mais à un moment donné, Dieu pourrait dire aussi, pour aujourd'hui ou pour cette saison, c'est l'Église qui passe en premier, et ton épouse en troisième, et toi en quatrième, et les enfants en cinquième. Et le conférencier nous disait, l'important, c'est effectivement de mettre Dieu en numéro un, et d'écouter par la suite ce que Dieu nous dit pour le temps contemporain et le temps présent que nous vivons, et qu'ils nous disent, voici quelle est ta priorité pour la journée. Alors, lorsque je ne mets pas Dieu en priorité, lorsque Dieu n'a pas toute mon attention, le malheur dans cette histoire, c'est que d'autres choses vont capter notre attention, d'autres choses vont capter notre intellect. C'est à d'autres choses que nous allons mettre notre réflexion, notre pensée, notre méditation. C'est à autre chose qu'on va vouer aussi nos efforts et notre temps. Quel est le temps que tu donnes à Dieu? Dans l'attention que tu donnes au Seigneur, il y a aussi du temps. Et du temps de qualité. Lorsque je disais que j'ai appris il y a déjà un certain nombre d'années à donner plus de temps au Seigneur, c'est pas simplement de dire « Ah, je vais me lever une demi-heure plus tôt ». Et puis, cette demi-heure passée, ben là, j'aurais fait ce que j'ai à faire. Non, il faut que cette demi-heure vaille de quoi? À un moment donné, c'était la grande mode de dire, toutes les journées doivent être commencées avec le Seigneur. Et je suis d'accord avec vous, je commence ma journée un peu avant que le réveil ne sonne. Je suis déjà en prière et je remets la journée entre les mains du Seigneur. C'est ma première pensée. Mais au-delà de cela, je suis pas quelqu'un qui fonctionne très bien le matin. Ça me prend un peu de temps pour me mettre en marche. Mon temps de qualité, c'est le soir, lorsqu'il n'y a plus de bruit dans la maison, lorsque la journée s'est accomplie, c'est à ce moment-là que toutes les pensées de prédication, que toute l'inspiration me vient. C'est à ce moment-là, même quand j'étais plus jeune à l'école, et encore aujourd'hui, que j'étudiais le mieux, une fois qu'il n'y avait plus de bruit dans la maison. Alors l'idée, c'est de savoir quel est le meilleur moment que tu peux consacrer à Dieu pour que ce temps-là soit aussi le temps de qualité pour toi. Je pense que c'est bon d'en parler aujourd'hui en cette première séance de bénédiction matinale parce que ça te pousse au défi et ça me pousse au défi aussi de dire « Ok, pour cette année, je mets Dieu en priorité numéro un. » Lorsque les tracasseries vont venir, lorsque les problématiques vont venir, lorsque les inquiétudes vont venir, je vais prendre le réflexe, ou je vais avoir le réflexe de forcer mon âme, de forcer mon esprit à retourner à leur repos en se rappelant comment Dieu a été bon jusqu'à présent et combien Dieu nous a soutenus jusqu'à présent. Et deuxièmement, je vais aussi cadrer mon temps pour accorder au Seigneur l'attention nécessaire. Pas pour biffer une case, pas pour dire « Ah, ben j'ai fait ma besogne, à lui de faire la sienne maintenant. » Non, mais si je comprends que Dieu est la personne la plus importante de mon existence, si je comprends qu'il est la source la plus profitable pour mon existence, à ce moment-là, je lui accorde le temps, je lui accorde l'attention, je lui accorde mes efforts, je lui accorde mes priorités. Et ça, on doit l'entendre en tout début d'année. Par contre, j'aimerais rajouter un dernier point. Lorsqu'on parle de merimnao, toujours s'inquiéter, ce terme-là a un dernier sens. Et ce sens est caché dans une première lecture. Mérimna veut dire chercher ou promouvoir son intérêt. Mérimna veut dire s'inquiéter pour nos propres choses. Et assurément, lorsqu'on s'inquiète, on s'inquiète très souvent pour les choses qui nous concernent, pour les choses qui concernent les gens qu'on aime. Mérimna, je m'inquiète pour moi-même. Je mets en priorité mes choses par rapport aux choses de Dieu. Lorsque David va dire à son âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Il est en train de dire, tu es en train de me bousiller ma joie, tu es en train de bousiller ma paix, tu es en train de bousiller mon temps, tu es en train de bousiller les efforts que je pourrais consacrer à Dieu, et tu les bousilles pour des choses qui sont axées sur toi-même. La personne la plus importante dans ta vie, ce n'est pas toi, c'est Jésus. La personne la plus importante dans ma vie, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Et Jésus devrait avoir priorité sur mes choses personnelles. Combien de fois à travers les années, combien de fois à travers les derniers mois, voire à travers les derniers jours, les dernières semaines, on a fait passer nos priorités avant celles de Dieu. Combien on a fait passer nos besoins en premier avant les prérogatives de Dieu. Combien on a fait passer nos intérêts, nos aspirations personnelles avant le plan de Dieu. Si nous sommes effectivement des serviteurs et si nous sommes effectivement des disciples, et on a eu l'occasion d'en parler régulièrement l'année dernière à maintes et maintes reprises, si nous sommes des disciples, si nous sommes des serviteurs, la préoccupation première d'un serviteur et d'un disciple, c'est le maître, c'est Jésus. Alors dans ma vie, est-ce qu'effectivement les priorités de Jésus passent avant les priorités de Florent? Est-ce que je ne suis pas en train de me tracasser strictement pour les choses qui sont personnelles? À ce moment-là, je vais prendre les choses en main et je vais essayer de les régler au lieu de laisser ça entre les mains de Dieu, entre les mains de Jésus, pour qu'il s'en occupe et qu'il complète les choses qui sont à compléter. Cette année, une chose importante. Priorisons Dieu. Mettons Jésus en première instance dans nos vies. Par conséquent, on va garder une paix, une quiétude, parce que sa présence va nous rassurer. Parce que sa présence va nous apaiser. Par conséquent, si on met Jésus en priorité sur nos vies, assurément, notre horaire, notre charge de travail, nos occupations, notre calendrier va changer. Pourquoi? Parce que Jésus sera en priorité. Et enfin, on va être un peu moins axé sur nous-mêmes, mais davantage axé sur l'œuvre de Dieu. On va arrêter de penser à nous-mêmes et on va penser, Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Et à l'occasion, le Seigneur va nous dire, effectivement, on est arrivé dans un vert pâturage, on est arrivé près des eaux paisibles, ravitaille-toi, dors bien, repose-toi bien. Mais régulièrement, le Seigneur va nous dire, bon, alors j'aimerais que tu fasses telle œuvre, tel travail, va auprès de telle personne, entière-toi de telle autre, occupe-toi de telle partie de mon champ, occupe-toi de telle partie de mon service. Alors la grande question pour toi et pour moi, Dieu a-t-il toute mon attention? Ou suis-je en train de faire passer ma personne en premier? Et je ferai simplement un nota bene, je vous ai dit tout à l'heure que Marthe voulait dire rebelle. Lorsqu'on se rebelle face à une chose, c'est qu'en général on n'est pas d'accord avec cette chose. Pour nous-mêmes, on voit des gens actuellement qui sont en train de se rebeller par rapport au passeport vaccinal, par rapport au confinement, par rapport au couvre-feu, par rapport à telle et telle mesure que le gouvernement impose. Pourquoi? Parce qu'ils disent « ça brime mes droits, ça brime ma liberté ». Et ce faisant, ils mettent leurs droits personnels et leur liberté personnelle avant le droit ou avant les prérogatives du gouvernement. C'est une chose. Mais pensons lorsqu'on le fait par rapport à Dieu. Lorsque nous sommes comme Marthe, avec ce nom qui veut dire rebelle, c'est très souvent qu'on passe nos aspirations, nos désirs, nos pensées avant celles de Dieu. Et nos pensées, les pensées de Dieu, ne sont que très rarement similaires. Notre cœur est taché du péché et de l'iniquité. Notre cœur nous pousse dans des voies contraires à Dieu. Et le diable va venir avec un tas d'inspirations pour ta vie. Un tas d'inspirations pour ton existence. En te disant que tu devrais. Il le fait depuis le début. Lorsqu'il s'est approché de Ève et d'Adam, il leur a dit, mais si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ben à ce moment-là, vous seriez comme des dieux. Donc il les a mis comme insatisfaits ou il les a rendus insatisfaits de leurs conditions. Et ils ont aspiré à davantage pour eux-mêmes. Et c'était un piège. Lorsqu'il s'est présenté devant Jésus pour le tenter, il a fait la même chose. Il dit, comment ça mange, change cette pierre en pain si tu as faim. Fais passer tes besoins en premier, puis fais passer l'autorité que tu pourrais avoir. Fais passer la gloire que tu pourrais avoir avant l'obéissance envers Dieu. Mon ami, mon frère, ma sœur, cette année, décidons en ce début d'année que nous ne tomberons pas dans le piège du diable. Dieu sera ma priorité. Il aura donc mon attention. Je vais le chercher davantage. Je vais prier davantage. Je vais écouter sa voix davantage. Je vais lire davantage. Je vais m'impliquer davantage dans son œuvre, même si ça veut dire de mettre de côté mes propres aspirations et mes propres désirs pour mettre de l'avant les pensées et les désirs de Dieu. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Permettez-moi de prier. Et on va prier aussi pour André, l'époux de notre sœur Rosie, qui nous regarde très régulièrement de l'Alsace. Il est dans des moments très précaires de sa vie. Il est hospitalisé d'urgence depuis hier. On prie aussi pour le pasteur Roger qui est hospitalisé lui aussi à Brazzaville pour des situations un peu moins complexes, mais quand même. Alors prions pour André, prions pour Rosie, prions pour le pasteur Roger et par la suite on termine. Alors merci Seigneur pour cette parole mettre les priorités là où elles doivent être en ce début d'année. Assurément, c'est ce qu'on a besoin d'entendre en ce début d'année. Alors qu'on débute notre marche dans 2022, nous voulons te mettre à l'avant-scène. Nous voulons te mettre comme toute première priorité. Et au-delà même de la première priorité de notre vie, nous voulons te donner le droit sur toutes les autres priorités de notre existence. Guide-nous, instruis-nous, parle-nous de façon quotidienne, que tu puisses, Seigneur, nous parler. Ouvre notre oreille, qu'on puisse entendre ta voix et reconnaître de ta bouche même quelles doivent être les priorités numéro 2, numéro 3, numéro 4, et ainsi de suite, après t'avoir mis toi en priorité numéro 1. Alors ce matin, on te demande aussi, Seigneur, d'étendre ta main sur André. Tu vois, Seigneur, les moments critiques qu'il passe actuellement. Merci Seigneur parce que cet homme a entendu ta voix, cet homme a entendu ta parole et s'est tourné vers toi. Tu as apaisé son cœur. Merci Seigneur parce qu'il a pu faire la paix avec toi. On te demande Seigneur de prendre soin de lui actuellement. Tu sais si on arrive à une fin de parcours. Tu sais Seigneur si tu vas appeler dans ta présence notre bien-aimé André. On te demande Seigneur de le garder, de l'assister dans ces moments difficiles, que tu assistes aussi, Seigneur, notre sœur Rosie, que tu l'encourages, que tu la soutiennes, que tu la fortifies et que tu prennes soin aussi, Seigneur, de l'ensemble de la famille. On te demande, Seigneur, de soutenir le pasteur Roger qui a eu cette opération pour la prostate il y a quelques jours. On te demande, Seigneur, d'être avec lui, de le garder et de le soutenir et de renouveler ses forces. En toute chose, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Merci pour cette journée, pour cette première journée de bénédiction matinale dans laquelle, Seigneur, on peut se consacrer à toi. Inspire mon frère, inspire ma sœur, inspire-moi, Seigneur. Conduis-moi, conduis-nous. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve donc demain matin avec Marthe. Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Au revoir tout le monde.